Camille Yobet, votre travail se situe au croisement de l'art contemporain, du cinéma expérimental, de la recherche perceptive. On va parler de perception. Plasticienne, réalisatrice, vous avez exposé dans de nombreux centres d'art en France, en Suisse, ailleurs, à Montrouge, au Centre Pompidou, Metz, à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, qui vous a consacré en 2023 une exposition monographique d'ampleur intitulée Fond d'air. Vous êtes aussi l'autrice de Pacheux, moyen-métrage documentaire très remarqué notamment au FID à Marseille. Au-delà de ce parcours, et on va en parler ensemble, ce qui marque dans votre travail, c'est une obsession, je ne sais pas si le mot vous conviendra, mais comment capter ce qui nous traverse, comment enregistrer des sensations qui précèdent ou débordent les mots, comment transcrire ce qui reste normalement hors champ ou hors champ lexical. Alors pour entrer dans cette démarche, j'aimerais qu'on commence par quelques questions sur votre parcours. Plasticienne, réalisatrice, je l'ai dit, formée aux Beaux-Arts d'Annecy. Quel a été le déclic, l'impulsion, le désir qui vous a amené à travailler autour de ces questions de perception et de leur transcription sensorielle?
Le moteur un peu du début, ça a été quelque chose qui a attrait à l'oralité. Et que quand on remarque quelque chose, quand quelque chose nous touche ou nous marque, la première chose qu'on fait pour la partager et en fait aussi pour la mémoriser et l'enregistrer et la traduire, c'est par l'oral et c'est par la voix. Donc je pense que c'est transcrire ses propres perceptions, c'était un peu la première obsession qui allait très loin jusqu'à essayer de transcrire de l'imperceptible en direct, etc. Et voilà. Et après, je pense que la sensation, c'est aussi aller chercher, pour le coup, ailleurs que le verbal pour essayer de comprendre le monde aussi, qui ne s'explique pas que par des mots, mais aussi par des sensations.
Mais vous avez très tôt mené des ateliers avec des personnes déficientes visuelles. Qu'est-ce que ces expériences vous ont appris justement sur l'écoute, sur la description, sur l'usage du langage, pour le coup?
Alors oui, c'était il y a assez longtemps, des projets d'ateliers de description tactile avec une association de déficients visuels. C'était vraiment hyper intéressant parce qu'il y a toute une déconstruction justement de la représentation. Aller voir quelqu'un qui perçoit différemment, ça permet de questionner sa propre représentation, des capacités chez certaines personnes avec qui j'ai travaillé, de donner une image en trois mots, chose que le voyant avait beaucoup plus de difficultés à faire, une capacité à synthétiser une image par le verbe, etc. Donc il y a eu beaucoup d'expérimentations comme ça, de partage de perceptions différentes en fait.
Il y a cette, alors je vais dire attirance et non plus obsession maintenant, mais pour les troubles de la perception, pour les décalages sensoriels, les récits qui échappent au langage courant, est-ce qu'on peut dire que vous vous intéressez à ce que, c'est vous qui l'appelez comme ça, les langages bricolés, mais c'est pas du tout péjoratif?
Je pense qu'il y a un truc de fonctionnement et de dysfonctionnement du cerveau qui m'intéresse. Moi, je suis fille de parkinsonienne depuis 35 ans. Donc, j'ai vu comme ça comment fonctionne et dysfonctionne le cerveau. Et outre parler de l'histoire personnelle avec la maladie, il y a un truc assez fascinant sur comment fonctionne le cerveau, comment il est capable de prendre d'autres chemins quand il n'y arrive pas. Et pendant mes études, des lectures comme Oliver Sacks ou Israel Rosenfield, on nourrit comme des... ou le John Hull, par exemple, qui a été une lecture importante sur les derniers projets. On nourrit des protocoles d'expérimentation, de perception des choses, en fait, je pense. Et après, c'est toujours des rencontres. Donc, par exemple, ça excède ses premières intuitions. La rencontre avec Noa El Sadawi, une jeune femme sourde avec qui j'ai beaucoup travaillé, a été passionnante parce que c'était une rencontre... De personnes qui perçoivent différemment, mais aussi linguistique et culturelle, parce que Noa est dans la langue des signes française et dans la culture sourde, et ça a été pour moi une rencontre hyper importante et qui a transformé ma manière d'aborder l'autre, je pense.
On va continuer, on va beaucoup parler de son, mais parler évidemment aussi d'image. Vous citez souvent le bâton d'aveugle dont parle le cinéaste Johan van der Keuken pour évoquer sa caméra. Qu'est-ce qui vous touche dans sa manière de filmer?
Je connais pas l'intégralité de son boulot, mais ce film L'enfant aveugle 2 m'a particulièrement touchée, aussi dans la manière de penser la forme, pas par ses propres choix de réalisateur, mais en laissant Herman Hesse, ce jeune aveugle, diriger le film par le son, par la voix, par sa personnalité, un truc vraiment très beau. Et puis cette idée que le cinéma et la culture, on est dans une culture extrêmement visuelle, dominante, et aller chercher un peu ailleurs, ça vient porter une autre attention aux choses, et ça me paraît assez passionnant comme matière d'expérimentation, quoi.
Expérimentation, et là aussi c'est un mot important, parce que votre travail, il articule plutôt souvent la voix, le regard, le geste, et on va en parler pour les projets qui nous concernent directement, mais justement avec cette attention très fine aux micro-phénomènes des corps, est-ce que les films, ils sont comme des capteurs de perception, des outils de perception ?
Les premiers, avant Pacheux, qui a un format un peu différent, c'est plutôt des expériences filmées pour moi. Et il y a vraiment un truc de mettre en place des dispositifs d'expérience précis et de venir capter quelque chose, au lieu d'aller filmer quelque chose dans le réel, où parfois c'est compliqué, où c'est finalement très artificiel d'arriver à choper des trucs assez infimes. Trouver des conditions d'expérience pour rejouer les choses avec les gens avec qui je travaille. Et ça nous permet de vraiment expérimenter, de travailler. Le projet avec la soprano, je lui fais répéter une phrase de 5 secondes jusqu'à 47 fois. Et il va se passer un truc dans la 37-38 qu'il n'y aura pas avant et qu'il n'y aura pas après. Donc tous ces outils mis en place dans l'expérience filmée ont été vraiment précieux et se sont nourris à chaque projet, en fait. Et ils m'accompagnent maintenant comme si j'avais une valise à outils où je n'ai pas seulement des caméras, mais aussi des manières d'imaginer les dispositifs filmiques que je poursuis et que je peux expérimenter plus loin, quoi.
Alors justement, Camille Niobet, on va parler de ces différentes œuvres que vous présentez dans le Valais. Le projet Glacier Noir, il est né donc après une première visite au barrage de Mauvoisin, dans un contexte très particulier. Le Rhône débordé, Sierre était inondée. Quel souvenir est-ce que vous avez de cette journée-là et comment peut-être cette journée et ces conditions extrêmes ont nourri le projet à venir ?
C'était une journée assez particulière, c'était très joyeux comme moment parce qu'on allait au vernissage de John Ayrton et c'est un endroit magnifique, un cirque avec des cascades, ce barrage, c'est vraiment un super endroit, le travail de John hyper beau, plein de chouettes artistes, un brunch, super moment. Et moi j'habite pas très loin, hein, j'habite à 2h30 de voiture, 3h de ce lieu, de l'autre côté de la frontière, du côté de la vallée de l'Arve. Et en fait, ça faisait déjà quelques jours que les laves torrentielles étaient présentes dans nos montagnes. Et déjà, la route, en fait, je voyais l'eau des torrents frôler les bords de route. Et j'ai commencé à être un peu impressionnée sur la route. Je devais en plus, normalement, après le vernissage, traverser la vallée du Rhône pour rejoindre une équipe de recherche au glacier du Rhône, que j'ai annulé puisque la vallée était fermée. Et il y avait vraiment un écart entre ce moment un peu sympathique, ensoleillé au barrage et ces événements. Et il y a un truc assez particulier, c'est que quand je visite le lieu, Jean-Paul, le curateur, m'avait parlé de la surface miroir de l'eau du barrage. Et en fait, je n'ai même pas regardé, mais il y avait un tel bourdonnement des cascades alentour, des flux d'eau énormes. En plus, il y a tout un réseau de canaux qui projettent des masses d'eau énormes dans le barrage. Et je pense que j'ai pas, à part les photos de John, j'ai pas regardé grand-chose d'autre que écouter ces vrombissements de ces monstrueuses cascades.
Alors, du coup, comment est-ce que vous avez conçu ce que sera Glacier Noir ?
Alors, Glacier Noir, ça part d'un projet. Donc, Glacier Noir, c'est un projet photo sur le barrage. Et en fait, le projet, à la base, part d'un projet vidéo. Moi, je fais plutôt de la vidéo et du son que de la photo. La dernière photo que j'ai exposée, c'était en 2010. Et c'était une photo. Et j'ai jamais réexposé d'autres photos. Donc, c'est la première fois que je me réapproprie ce médium. Et donc, j'avais un projet de recherche plutôt vidéo et sonore. Sur ce lieu assez étrange que sont les moraines et les glaciers noirs. Et Jean-Paul m'a invité à Mauvoisin et ça m'a donné envie. J'avais déjà commencé à travailler un peu cette idée de tous les cadrages vidéo que j'ai fait de la montagne dans Pacheux. Ça me donnait envie de pousser plus loin et ça m'a permis de vraiment expérimenter pour le coup là, une manière de photographier ces espèces pour ce projet.
Pour ce projet, mais on le verra aussi dans les vidéos, mais ce qui est frappant dans Glacier Noir, c'est qu'on perd les repères, on ne sait plus qu'on regarde quelques centimètres de sol ou peut-être un espace qui est sur plusieurs kilomètres. Qu'est-ce que vous souhaitez provoquer pour le coup dans la perception des spectateurs devant vos images?
En fait, c'est un peu particulier hein, parce que le projet, en fait, c'est des fils qui se poursuivent de ce projet Pacheux, qui est donc un film sur le massif du Mont-Blanc. Et où à la base, j'ai plutôt travaillé des questions de son, de kinesthésie, de... mais à un moment donné, et aussi où j'ai beaucoup travaillé l'enregistrement du son de la montagne, mais à un moment donné, j'ai aussi été confrontée à la filmer. Et moi, enfant, parce que je suis née dans le massif du Mont-Blanc, j'ai skié à Argentière toute mon enfance. Parce que mon papa était pisteur secouriste. Et j'ai un rapport à cette montagne où je n'ai jamais sorti un appareil photo pour la photographier. Par contre, j'ai un rapport un peu intime du sublime où je me rappelle de la dernière descente où tu t'arrêtes devant ces blocs de glace bleu du glacier d'Argentière et juste tu es dans le silence. Surtout, tu ne sors pas d'appareil photo et tu gardes ça vraiment que pour toi. Et je pense que c'est 2 ans et demi après avoir lancé Pacheux que je me suis rendu compte que j'allais devoir aussi comprendre comment je voulais filmer la montagne. Et c'était assez intuitif, mais c'était assez marrant parce que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un truc d'un regard fabriqué dans une famille de sculpteurs. Moi, j'étais à l'école d'art d'Annecy, entourée d'artistes qui sont plutôt sculpteurs. Et on sent que mon regard a été fabriqué là et que leurs gestes et leur manière de penser la matière a influencé ce travail. Et après, je pense que c'est des ressentis d'habitantes et de... Moi, je ne suis pas alpiniste, mais je connais quand même la montagne. Il y a un ressenti en montagne qui n'est pas ce truc contemplatif de loin sur un balcon où on filme le sommet. Si on filme le sommet d'une montagne, on ne regarde que le sommet. L'œil est monopolisé par le sommet. Si tout d'un coup, on enlève le sommet et qu'on vient plonger dans ces espaces qui sont gigantesques, parce que c'est des échelles de vallées, de kilomètres vides, quoi, sans route, sans ville, parfois sans végétation. Et c'est des espaces à la fois complexes, à la fois dans leur gigantisme et dans leur macro, quoi. Donc pour moi, aussi fascinant à regarder à l'échelle d'un petit tas de boue que à l'échelle d'une vallée.
Vous avez parlé de cette intimité avec la montagne que vous avez eue, mais justement, quand on regarde certaines de ces images, on se demande si c'est pas plutôt une peau que vous êtes en train de filmer, enfin de photographier là.
Ouais, je pense qu'il y a un truc de texture. Il y a un truc presque tactile. Il y a dans mes conditions de dispositif de tournage un peu précis, qui sont aussi vachement liées à la vidéo, donc à des qualités de silence, pas toujours faciles à trouver dans le massif du Mont-Blanc, qui est aussi un parc d'attractions extrêmement bruyant. Je viens chercher des moments de silence et des luminosités aussi. Une espèce de luminosité très douce qu'on retrouve à l'aube, un peu le soir, ou parfois selon les saisons, au mois de janvier ou à l'automne. Où il n'y a pas de lumière directe. Dès que le soleil sort, moi j'arrête de filmer, j'arrête de photographier. Il y a vraiment un truc de juste avant le soleil où toutes les facettes du paysage sont éclairées avec la même douceur. Je dirais presque une espèce de tendresse tactile dans la luminosité qui fait qu'on peut percevoir tous ces détails. Et c'est un truc qu'on vit en alpinisme en sortant d'un refuge. On sort de nuit, on a un rapport où on ne voit que dans le halo de la frontale et puis on a ce lever de soleil et cette luminosité extrêmement belle, qui moi me fascine particulièrement. À partir du moment où il commence à faire, il y a plus de soleil, qu'il faut continuer à monter, ça m'intéresse plus du tout de crapahuter des heures jusqu'à un sommet. Mais c'est cette montagne vue dans cet état, c'est assez, ouais, c'est touchant.
Alors, certes, de la photo, mais on peut dire que vous abandonnez pas tout à fait le cinéma. Alors, Glacier Noir va exister pour les siècles des siècles sous forme de livre chez Romain Publications. Mais pour l'exposition sur le barrage, vous avez conçu ces images pour qu'elles soient regardées en diptyque, parfois en enchaînement séquentiel. Comment cette organisation de l'espace, et en plus il y a ce format vertical, il y a quand même beaucoup de contraintes pour les panneaux sur le barrage. Est-ce que vous avez cherché à inscrire aussi une narration, un mouvement pour le spectateur?
Je pense qu'il y a en fait le diptyque, c'est plutôt dans le livre, qui est avec les deux pages en fait. Où la manière de décadrer, elle avait déjà été expérimentée. Le barrage m'a amené vers cette verticalité que je trouve vraiment intéressante, parce que c'est finalement assez rare hein, de photographier. De regarder le paysage comme ça. Et en fait, depuis longtemps, j'avais capté cette chose où quand tu mets 2 images de montagne à côté, même si elles n'ont rien à voir, ton œil poursuit les lignes. Et ce qui fait que, vu qu'on est à la fois... À partir du moment où tu coupes les sommets, on perd la profondeur, on est complètement perdu. Alors parfois, une petite plante, un chamois, un marcheur va te révéler, et tu vas re-repérer ton échelle, et puis en fait, tu te refais repérer assez rapidement par les images suivantes, parce que mais c'est aussi quelque chose qu'on vit en montagne, quoi. On passe une bosse et on est dans un autre univers, on change de monde en très peu de temps, et on a l'impression de changer de saison aussi. Et ce qui fait qu'après, le barrage, ça s'est joué plutôt sur... Il y a un truc assez marrant sur ce barrage, où on parcourt dans un recto verso ces images, qui sont quand même principalement grises, parce qu'il s'agit donc d'un glacier noir, c'est-à-dire un glacier recouvert de cailloux. Et pour le coup, il s'agit de la mer de glace, et qu'on imagine à la base normalement plutôt blanche. Et donc, qui est à peu près aussi grise que le barrage, mais qui va avoir des variations orangées ou bleues, ou bleutées, selon les photos que j'ai prises plutôt le matin ou plutôt le soir. Donc, il y a un truc de jeu séquentiel à la fois. Des fois, je rapproche deux images qui sont une image un peu plus rapprochée, un peu plus zoomée que l'autre, mise côte à côte, ou des images d'endroits différents mais qui viennent se retrouver. Et t'appréhendes pas du tout le paysage de la même manière, en fait. Ça redécoupe l'espace de manière différente. Tu le remodélises différemment.
Et puis en parallèle, vous présentez une œuvre vidéo à la Biennale Son dans l'ancienne centrale électrique de Chandolination, une œuvre qui s'intitule Moraine. Vous avez déjà évoqué, vous citez ce mot. Dans celle-ci, vous suivez deux guides, Sarah et Laurent, alors des corps experts qui sont capables de ressentir les variations du terrain. C'est très impressionnant de les voir ainsi dévaler. Mais comment est-ce que vous avez pensé ce tournage autour de ce qui est en fait de la proprioception ?
En fait, on avait commencé à travailler ça sur le projet Pacheux. C'était l'idée de, ok, mais en haute montagne, en fait, quand tu es dans ces espaces complexes, que tu n'as plus de chemin, donc tu dois à la fois repérer où tu peux passer, comprendre ce qui se joue, réagir, ne pas forcément appuyer tes pieds. Je me demandais à quel point on pouvait essayer de travailler de manière cinématographique cette proprioception. Ce qui est hyper compliqué, en fait, parce que comment tu rends en cinéma quelque chose qui se passe au niveau de l'équilibre, des jeux de vitesse, et qui n'est pas si facile à voir à l'image. Et dans Pacheux, on a commencé à tenter de filmer ça, sauf que les conditions d'expérimentation, contrairement à la pièce dont je parlais tout à l'heure, Majoliche, où la soprano elle répète 56 fois une même séquence de 5 secondes, là, en 2 secondes, on change de saison, on change de lumière, c'est la nuit, on a marché 8 heures et puis finalement, on n'a plus que 10 minutes pour expérimenter. Donc, on n'a pas pu pousser cette expérimentation. Donc, ça me tenait à cœur. Moi, j'ai l'impression que Moraine, c'est presque un projet de danse, en fait, de chorégraphie, mais de pousser plus loin, de comprendre, de filmer ses corps, de voir cette chorégraphie de ses jeux. À l'écran retour, sur les tournages, on a presque l'impression, en regardant Laurent, qu'il est tellement désarticulé, comment il vient poser ses pas. On a l'impression que l'image était au ralenti. On s'est demandé s'il n'y avait pas un bug sur l'écran retour. Et il y avait ça. Et puis aussi, se focaliser juste sur ces lieux de Moraine qui sont assez impressionnants. Et de travailler toujours avec la même équipe. C'est-à-dire que Laurent et Sarah, je travaille avec eux depuis longtemps. Le chef opérateur, Antonin Claude, c'est un spécialiste de suivi de sujet en milieu complexe. Parce qu'il faut savoir que les endroits où eux, ils courent, moi, je mets un quart d'heure à faire 2 mètres. C'est des espaces instables, quoi. Un rocher de 1 mètre peut s'écrouler facilement. On ne sait pas où poser les pieds, on ne sait pas par où passer. Et puis, en plus, on a le matériel. Les conditions d'expérimentation sont compliquées. Donc, petit à petit, en travaillant avec la même équipe, on atteint des possibilités. On a trouvé des manières d'expérimenter malgré les conditions un peu compliquées de ce milieu, notamment en bivouaquant sur la mer de glace, ce qui est quand même assez impressionnant parce qu'on est dans un espace complètement lunaire avec des énormes cailloux au-dessus de notre tête. Donc on fait bien attention à y aller à un moment où il ne pleut pas, il ne risque pas de pleuvoir. Mais c'est des endroits assez fascinants.
Il y a effectivement mettre en place la façon dont on filme cela. Effectivement, moi j'ai vu des danseurs dans ce film. Mais il y a aussi la façon dont on enregistre les sons. Vous parlez de bruit de fond géologique, les glissements, les effondrements, les petits éboulements. Il y a des sons qui sont très, très spécifiques à ces lieux-là. Comment est-ce que vous avez non seulement pensé cette bande-son, mais quel geste est-ce que vous avez dû aussi inventer pour capter ces sons ?
En fait, c'est pareil, hein, c'est une poursuite de Pacheux. Donc, dans Pacheux, on a commencé à enregistrer la montagne. Dans Pacheux, j'ai dû m'autonomiser avec des outils un peu plus bricolés. Et parce qu'il faut, en fait, ce n'est pas des outils hyper techniques, ce n'est pas des micros extrêmement chers. Par contre, c'est des choix de tournage dans des conditions extrêmement précises, à certains moments, de certaines manières. Et petit à petit, j'arrive à relever les sons de cette montagne. Il y a des ressentis que j'ai eus sur les repérages de Pacheux et que en fait, j'ai enregistrés pour le projet Maurène, notamment en allant mettre des micros. Donc pour Maurène, j'ai amené un ami ingénieur du son, Corentin Vigo, avec moi. Et on est allé enregistrer avec des micros ambisoniques, donc des micros qui enregistrent la spatialisation du son, au niveau de la fracture de pente du glacier de Bionacé. Vu que c'est un endroit vertical, quand les avions de tourisme s'arrêtent et que les trains du TMB s'arrêtent et que les gens qui montent au Mont-Blanc disparaissent pas longtemps, parce que c'est un défilé ininterrompu, face à ce glacier, on entend tous ces petits bruits. Donc on est face à des blocs de glace qui n'ont pas l'air de bouger, même s'ils bougent, et des fois on entend plus qu'on ne voit d'ailleurs des effondrements de sérac. Mais on entend plein de bruit, quoi. On a vraiment l'impression qu'il y a une ville en dessous qui bouge, parce que le moindre petit gravier tombe, glisse sur une pente, tombe dans une crevasse, selon la taille de la crevasse, la distance de la crevasse. On a vraiment l'impression d'une ville souterraine qui grouille, quoi. Et je trouvais cette matière, ce bruit très beau. Déjà, ça indique ce qui se joue vraiment, que ce truc est mouvant et vivant. Enfin, il y a un peu un truc d'éléments vivants, quoi. Et c'est un bruit qui existe aussi sur le lieu de tournage qui était la mer de glace, mais vu qu'on est sur un glacier beaucoup plus plat, ça se passe sous nos pieds, mais au-dessus, on a 57 000 cascades et écroulements rocheux qui bourdonnent dans cette espèce d'immense caisse de résonance qui est la mer de glace, qui est le grand vide laissé par la disparition de la glace. Donc on ne les entend pas forcément. Donc en fait, je viens relever le bruissement de la glace, les bruits qui se passent sous les crevasses, le ronronnement des cascades, et on vient relever tous ces sons. Je relève aussi tous les bruits de leurs gestes. Ils ont des petits micros, ils ont des casques orange un peu moches qui ont un trou entre le front et le casque qui permet de glisser un micro un peu à l'abri du vent, parce qu'on est aussi dans des conditions de tournage sonore pas toujours simples. Et on garde les bruits de ces gestes. Normalement, quelqu'un qui marche loin dans un film va être presque inaudible. Là, on laisse ce rapport tactile et cette matérialité. Et après, avec Kervin Roland et Corentin Vigo, là, on a fait un mixage presque un peu trop prise de tête, quand on se demandait à quel point on va bien entendre tout ce qu'on a essayé d'y mettre. Mais c'était un peu de l'orfèvrerie, quoi. On est venu régler tous ces petits sons, essayer de garder cette matérialité en essayant de rester juste, parce que c'est quand même aussi un film, donc on fait pas un truc... un truc de musique où ça reste dans les sons du lieu où on est, mais voilà, d'essayer de rendre la matérialité et la mouvance, en fait, que ce lieu bouge en permanence. En fait, on le ressent vachement quand on est sur place, hein. Ça, on passe notre temps à entendre craquer, grincer, s'écrouler, on lève la tête, et donc c'était essayer de rendre cet espace, ce bruit au regardeur.
Oui, mais c'est ce qui est aussi très très beau et émouvant dans votre travail d'une façon générale et dans ces différentes propositions là, c'est que la montagne, ça paraît être le paysage figé par excellence, et là on voit que c'est la montagne, ça vit, ça bouge, ça fait du bruit, c'est sans cesse mouvant, c'est un renversement de perspective pour le regardeur.
Oui, alors, et en plus avec le réchauffement climatique, la montagne s'écroule de plus en plus et le changement est vraiment brutal, et on assiste les habitants et les professionnels de montagne assistent tous les étés, plus l'été que les autres saisons, mais aussi aux autres saisons, à un événement. C'est un peu impressionnant parce que quand t'es enfant, on t'explique que les montagnes se sont formées il y a des millions de milliards d'années, c'est une échelle que tu comprends pas. Et là, t'as l'impression d'assister à un temps géomorphologique qui normalement est long et qui tout d'un coup est à la même échelle qu'une vie humaine. Et c'est alors c'est un peu triste, mais c'est aussi assez impressionnant. Ça questionne, dans le film Pacheux, il n'y a aucune autre musique ou voix off, parce que toute l'importance est donnée à la voix de cette, enfin c'est le bruit qui fait la montagne, quoi. Il y a des gens des fois qui me disent, ah non, elle fait pas autant de bruit, c'est pas tous les jours. Si, en fait, c'est vraiment tous les jours. C'est comme j'avais croisé quelqu'un sur un tournage qui disait, c'est que les écroulements rocheux, c'est comme le clocher d'un village. Oui, en effet, c'est ça, quoi. Surtout le soir, en face du refuge du couvercle, sur l'aiguille du tacu, quand le soleil tape sur la langue sommitale, il y a les écroulements sont constants, quoi. Ça, c'est un rituel, une ritournelle. Et c'est, voilà, bon, c'est un peu triste quand même, mais c'est aussi beau d'y prêter attention et de le partager et de faire entendre ces écroulements au jeu.
Du son, on va encore parler, de Pacheux, on va encore parler, puisqu'il y a Moraine, il y a Glacier Noir, mais il y a aussi au musée de Bagne une pièce plus brève, peut-être plus intime, Glacière, dans laquelle vous filmez une grotte glacée où subsiste de la glace fossile vieille de 1500 ans, j'ai bien lu, un milieu souterrain pris dans une anomalie thermique, si j'ai bien compris. C'est à la fois fragile, peut-être un peu hostile, très mystérieux en tout cas. Ce projet-là, comment est-il né et en quoi il s'inscrit justement dans, aussi dans la continuité de Pacheux ?
En fait, dans le projet Pacheux, il y a eu plusieurs recherches. Ça a donné un film et ça a aussi donné lieu à une pièce sonore qui s'appelle Pacheux croquis sonore, qui est une pièce sonore binaurale. En fait, ça consistait présenté à l'exposition à l'IAC, ça consiste en une barrière, une sorte de belvédère où on viendrait s'accouder pour observer un paysage. Et en fait, on met juste un casque qui nous place dans un vide, le vide de l'espace d'exposition, et on entend des sons dessiner le paysage autour de nous. Ça vient de, on en parlait en début de discussion, de cette phrase de John Hull, un aveugle, quelqu'un qui est devenu aveugle, qui a écrit un truc qui s'appelle Not on Blindness, sur qu'est-ce que ça a transformé de sa mémoire, de sa perception. Et il dit que le seul moment où il retrouve une perception de paysage, c'est par la pluie qui tombe sur différents matériaux à différentes distances de lui et lui redonne une perception spatiale et de paysage. Et en fait, j'ai pris cette phrase de John Hull comme une piste de « Ok, comment aller dessiner des lignes sonores avec mon équipe ?» qui, eux, par ailleurs, font de la pentraide et dessinent des lignes. Ils disent d'ailleurs, j'ai fait une nouvelle ligne, j'ai dessiné une nouvelle ligne. Ils utilisent ce mot de ligne pour aller inventer des nouvelles explorations de leur montagne, de leur jardin, hein, parce que c'est les montagnes qui sont autour de chez eux. Et donc, on a fait tout plein d'expérimentations. Donc, l'idée, c'est pas de se sentir à la place de l'alpinisme et d'entendre ses pas. C'était plutôt de venir faire glisser des bouts de glace le long d'une paroi, enregistrer une forêt qui fond, des petites boules de neige qui descendent une pente de neige, des plaques de glace qu'on jette sur un lac gelé et qui glissent comme ça sur des ricochets sur un lac gelé. Et donc j'ai fait plein de tournages d'exploration et ça a été le repérage du film, une manière d'aborder le paysage de montagne et de collectionner ces motifs sonores et d'en faire cette pièce uniquement sonore. Et ces tournages sont assez chouettes parce qu'en fait on vient vraiment explorer un espace comme un enfant en fait qui vient toucher, crapahuter, jouer avec son espace. Ce truc où j'ai un mètre, mon espèce de... C'est un peu une fausse tête binaurale, hein. C'est un truc bricolé, parce que c'est beaucoup trop lourd et trop cher, les vraies têtes binaurales. Donc je me suis fabriqué un petit micro avec des très bonnes capsules quand même, que je place sur un casque d'alpiniste, sur une fausse tête posée sur un pied, et qui m'accompagne sur ces tournages. Et on vient jouer autour de ça, et j'avais envie de le partager. Et en fait, ça a été un peu lancé par le projet d'atelier A d'Arte, qui voulait venir filmer une séance de recherche. Et on m'avait parlé de cette grotte glaciaire, qui est un espace qui m'intéressait d'aller découvrir par ces expérimentations sonores. Et Glaciaire, en fait, est un film. On a fait le portrait avec Arte, et c'était chouette. Mais moi, je voulais faire un film comme ça, où on ne voit cet espace que par nos expériences sonores, nos expérimentations. Alors, c'est marrant, parce que j'ai une amie, jeune artiste, Lou Lombard, qui l'a montré à des élèves, et qui était choquée, parce qu'on casse des stalactites, et qu'on détruit des endroits du paysage. Alors, ça a quand même été une question plutôt par le fait que c'est un espace très sauvage et très fragile, avec de la glace de vieille de 1500 ans, et que d'en parler à la télé ou à la radio ou dans des films, est-ce que ça pourrait amener du tourisme ? Je pense qu'il y a plus de risques que les vidéos d'alpinistes sur les sites internet d'alpinistes ramènent du tourisme. Et malheureusement, je travaille beaucoup avec Ludovic Ravanel, qui est un géomorphologue qui étudie le dégel du permafrost et notamment l'évolution de la glacière du Parmelan. Et par rapport à l'évolution climatique, la présence humaine est assez faible. Mais c'est assez marrant parce que ça nous pose la question, en fait, parce que c'est assez beau de venir... Alors, on n'a évidemment pas touché la glace fossile. Hein. On casse que la glace qui est de cet hiver et qui va disparaître dans quelques mois. Mais c'est très beau de casser un stalactite et de l'entendre glisser le temps d'une pente de glace. Mais en effet, chaque pas, à chaque fois qu'on va dans un environnement naturel, qu'on y marche, qu'on s'y assoit, qu'on joue avec le paysage, on abîme aussi les choses, quoi. Donc je pense que ce film était une manière de partager cette expérience de tournage. Donc c'est plutôt une recherche filmée partagée qui poursuit la pièce de Pacheux croquis sonore.
Vous accordez une grande importance, c'est bien normal, à la manière dont vos films sont montrés, lieux, dispositifs acoustiques, distance de vision. Dans vos notes, vous évoquez une attention sensorielle comme condition d'existence du spectateur. Et là, le musée de Bagne, c'est une chose, l'ancienne usine électrique, c'est une autre chose. À chaque fois, il faut que l'œuvre éprouve le lieu et que vous fassiez des réglages à chaque fois.
À l'IAC, on a fait un travail extrêmement précis avec des sas acoustiques. Certains espaces, on a laissé résonner. D'autres, on a feutré comme un studio. Et on a pu vraiment jouer très loin. Après, il y a d'autres moments. On va quand même, à Chandeline, on va quand même traiter l'espace acoustique de Morène. Parce que si on ne traite pas, en fait, la spatialisation, il y a un peu un truc de matérialité un peu imperceptible de tous les craquements. On risquerait pas longtemps. Après, il faut quand même aussi s'adapter à un lieu qui n'est pas un lieu d'expo, mais qui est une centrale électrique désaffectée, et où il y aura plein d'autres œuvres sonores. C'est un peu l'intérêt de cette chouette biennale son, c'est qu'on va parcourir d'autres œuvres sonores. Mais c'est un peu un truc... Moi, je trouve ça important de prêter attention à la posture du visiteur, la barrière de pâcheux croquis sonores, où on n'est pas avachi dans un fauteuil, mais on est debout dans le vide. On est dans une certaine attention, tout en étant... ouverte à des lieux qui ont peut-être moins de moyens, où on peut aussi faire l'expérience en n'étant pas toujours dans des conditions extrêmement précises. Mais voilà, que l'expérience existe quand même quand elle est moins précise, mais que quand on peut pousser l'expérience du visiteur, comment il aperçoit l'œuvre, même à l'IAC, on a joué le fait de ne pas avoir de commentaires avant de voir l'œuvre, de n'avoir que des titres indices, et de tomber sur un lexique guide du visiteur, où ce n'était pas des notices, mais un lexique des œuvres qu'on ne trouvait qu'à la fin de l'expo. C'est des trucs que je trouve chouettes de partager.
Et puis, on comprend bien qu'un travail, une œuvre, on amène une autre dans votre façon de travailler, Camille Yobet. J'ai lu qu'il y avait un projet en cours, Monstre Pente. Il s'inscrit, lui aussi, dans la continuité de Pacheux, de Morène. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous poursuivez comme ça ?
En fait, c'est particulier parce que avant de travailler sur la haute montagne, j'avais un peu l'impression de changer de projet à chaque rencontre. Et que je suis passée de la soprano lyrique à la performeuse poète sourde, à l'enfant, au sportif de haut niveau qui fait de la répétition mentale. Et en fait, en déplaçant mes protocoles de travail en haute montagne, donc déjà, je suis tombée sur un milieu qui est quand même compliqué. Et je me suis aperçue en montrant mon film dans différents milieux, autant aux gens qui vivent là-bas, qui y travaillent, que aux gens qui sont loin de ces milieux et qui ne les connaissent pas, qu'il y a beaucoup de pièges romantiques sur la manière dont dépenser la montagne. Et vu l'état dans lequel elle est, il est un peu urgent de repenser nos représentations de la montagne, notre manière d'y prêter attention. Et donc, il y a quand même une envie aussi dans le fait de partager cette double casquette d'habitant et de plasticien. Donc plasticien qui cherche à questionner les représentations des choses, mais d'habitant qui a aussi une compréhension profonde et sensible d'un lieu. Je me suis aperçue que c'était important. Et depuis le début de Pacheux, il y a cette idée de travailler avec des professionnels de montagne, parce que moi, je suis pas professionnel de montagne, je passe pas ma vie en haute altitude. Mais il y a un truc très beau, je trouve, dans cette capacité qu'ont ces gens de comprendre de manière sensible ces milieux, que ce soit le géomorphologue, le pisteur secouriste, le cordiste, le biologiste, ces différents professionnels. Et en fait, de fil en aiguille, des projets s'ouvrent, des rencontres s'ouvrent. Et je disais tout à l'heure que j'ai skié toute mon enfance au Grand Montais, parce que mon papa était pisteur là-bas pendant 20 ans. Et en commençant Pacheux, je suis allée voir la fondation de la Compagnie du Mont-Blanc, qui a été partenaire du projet. Ils m'ont demandé de choisir un parrain. Et je suis allée voir un monsieur qui s'appelle Jean-François Belin, qui est chef des pistes d'une station à Chamonix, et qui est le fils de Jeannot Belin, pisteur des Grands Montais, qui a tenu des notes quotidiennes pendant 38 ans. Donc de 1965 à 2002, tous les jours, il a écrit dans des petits agendas à quelle heure il a allumé la chaudière, où il a promené ses chiens, et quelques gestes de sa journée qui sont le quotidien d'un habitant d'Argentière et d'un travailleur d'une station qui n'est pas juste des couches de neige à entretenir, mais des glaciers, des avalanches, une montagne assez particulière. Et écrit dans un ton assez beau, un peu parfois drôle, beaucoup de patois, beaucoup de termes spécifiques du métier de pisteur. Et cette station ouvre en 64, donc c'est toute l'histoire de la station qui est vue par le gardien, les gens qui entretiennent au quotidien, qui connaissent, qui ont nommé chaque pente, ils donnent des noms aux couloirs. Il y a le couloir du délinquant, la pente négligée. Ils ont nommé, pour se repérer sur cet environnement assez gigantesque, ils nomment chaque aspérité du relief. Et ces notes sont hyper belles, donc j'ai eu envie d'en faire quelque chose et d'en faire un travail, notamment qui va en fait être une... On va le transcrire et on va essayer d'en faire un livre pour le partager autant comme livre d'artiste que comme objet populaire. pour écrire la mémoire de ce lieu à travers les notes de Jeannot. Et la spécificité des Grands Montais, c'est que la station a brûlé en 2018. La gare intermédiaire de Lognan a brûlé. C'est comme si la station avait perdu sa colonne vertébrale. C'est vraiment ça. Ce n'est plus du tout cette station où on monte, on fait 2 km en téléphérique pour aller skier sur des glaciers. Et ils sont en train de la reconstruire aujourd'hui. Et c'est un projet qui est pensé par Renzo Piano, d'un énorme chantier de 4 gares et 2 téléphériques gigantesques qui sont en ce moment en construction. Et quand j'ai parlé de ce projet aux travailleurs des Grands Montais, aux pisteurs des Grands Montais, ils ont trouvé ça passionnant de travailler à la fois sur la mémoire et ils m'ont ouvert les portes du chantier. Donc j'ai d'autres projets sur la transmission gestuelle des habitants de montagne qui me semblaient plus poursuivre ce que je faisais. Mais en fait, cette montagne est aussi une usine. Et avec plein d'expertises, de travailleurs, de contradictions aussi sur ce qu'elle est en train de devenir et comment les habitants et les travailleurs la comprennent, la voient et y vivent, quoi. Et c'est assez passionnant d'aller faire des tournages expérimentaux avec des gens qui sont en train de mettre en place des pylônes, faire exploser des pans de montagne, des pilotes d'hélicoptères et des scientifiques, des biologistes qui vont, on m'a raconté, je ne les ai pas encore rencontrés, mais ils étudient le sol glauque, qui est une espèce endémique où il y a un papillon qui vient se reproduire. Donc ils demandent au chantier de ne pas toucher à cet espace. Donc cette montagne, elle concentre à la fois zone géomorphologique en pleine mutation, espace sauvage, espace naturel protégé, usine, parc d'attractions touristiques. Elle concentre plein de couches de sens et l'idée étant d'essayer de la transmettre à la fois par des projets de films, de livres et de différentes recherches qui ne sont pas portées que par moi. C'est vraiment des projets de recherche avec des travailleurs et des scientifiques et des historiens d'art. Voilà, transmettre une espèce de polyphonie de cette montagne.
Cet épisode d'accordage produit par le musée de Bagnes a été enregistré le 30 avril à Paris en vue des expositions de Camille Yobet sur le couronnement du barrage de Mauvoisin et au musée de Bagnes du 22 juin au 5 octobre 2025. Un projet proposé par le musée de Bagnes sous le commissariat de Jean-Paul Fellet, directeur de l'EDEA, École de Design et Haute École d'Art du Valais. À découvrir également l'installation Moraine, dans le cadre de la 2e édition de la Biennale Son à la centrale de Chandoline à Sion, du 30 août au 30 novembre 2025. Accordage est un podcast Biennale Son, raconté et réalisé par Arnaud Laporte.